Vous écoutez RFI, il est 11h en temps universel, 13h à Paris. RFI Midi, présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. RFI Midi, 2h30 ensemble pour faire le tour de l'actualité dans le monde. Et nous allons beaucoup parler aujourd'hui, bien sûr, de la situation politique en France. L'extrême droite aux portes du pouvoir, le Rassemblement National, grand vainqueur du premier tour des législatives hier, avec 33% des suffrages et près de 40 candidats élus dès le premier tour.
Désormais, le choix est clair. Et deux chemins s'offrent à la France. D'un côté, l'alliance du pire, celle du nouveau Front populaire rassemblé derrière Jean-Luc Mélenchon, qui conduirait le pays au désordre, à l'insurrection et à la ruine de notre économie. De l'autre, l'Union nationale. Cette alliance inédite, motivée par l'intérêt national, est désormais l'unique rempart républicain et patriote qui peut faire gagner la France.
Jordan Bardella, leader du Rassemblement National, et cet appel, car l'incertitude plane sur la capacité de l'extrême droite française à obtenir une majorité absolue dimanche prochain. Face à elle, la coalition de gauche, 28% des votes hier, mise sur ce que l'on appelle le front républicain, un barrage face au RN. Mais tous les candidats, tous les partis, à commencer par les partis de gouvernement, ne semblent pas prêts à se désister. Édition spéciale dans quelques minutes. On fera le point sur les stratégies des uns et des autres. Nous recevrons aussi deux analystes de l'Institut de sondage Cluster 17 et un chercheur au CNRS. Nous verrons également ce qu'en pensent les Européens. Marine Le Pen, perçue comme un exemple par le parti allemand AfD. Nous appellerons aussi un journaliste italien pour voir comment cette situation est perçue à Rome, où l'extrême droite est au pouvoir depuis 2 ans maintenant. Et puis on se penchera aussi sur ce qui se passe à Bruxelles, particulièrement aujourd'hui, parce que ce 1er juillet, la Hongrie prend la présidence tournante de l'Union européenne et les échanges s'annoncent tendus entre Bruxelles et Viktor Orban. Voilà pour le programme. Bienvenue.
RFI Midi. RFI à Paris, 89 FM.
Et comme chaque jour, on fait le point sur l'essentiel de l'actualité. Bonjour Viktor Missistrano.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Le président de la République française pensait revenir au centre du jeu en prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale. Eh bien, le pari est manqué.
Oui, 3 semaines plus tard, le parti d'Emmanuel Macron se classe 3e avec 20% des voix, à 13 points du Rassemblement national. Le parti d'extrême droite en tête devant l'Alliance de gauche, 28% des suffrages pour le nouveau Front populaire. Aujourd'hui, l'heure est aux tractations. La gauche, comme une partie du camp présidentiel dont Gabriel Attal appelle à faire barrage au RN et à se désister en cas de 3e place sur une des plus de 300 triangulaires potentiels. Le parti de Jordan Bardella a fait élire 39 députés dès le premier tour. Il espère atteindre dimanche les 289 synonymes de majorité absolue. A noter une participation massive à ce premier tour, près de 67%, un taux également en hausse chez les Français de l'étranger. 410 000 ont voté, ils étaient 250 000 il y a 2 ans. Cela reste un taux de participation bien plus faible que la moyenne nationale. Bonjour Marie Cazadebet.
Bonjour.
Pour ce qui est de leur choix dans l'isoloir, on note une forte discordance avec le reste de la population.
Eh bien oui, puisque aucun candidat du Rassemblement national ne s'est qualifié dans aucune des 11 circonscriptions des Français établis à l'étranger, quand le RN, vous l'avez dit, fait un peu plus de 33% au niveau national. Tous les candidats sortants, en revanche, restent en lice pour le second tour, dans 10 circonscriptions. Ce second tour opposera un candidat de la majorité présidentielle au nouveau Front populaire, le NSA. FP arrive en tête dans 5 d'entre elles, Amérique centrale et sud, les 2 circonscriptions africaines, la 3e en Europe du Nord et la 4e au Benelux. Renaissance Ensemble arrive en tête dans les 5 autres, péninsule ibérique, Suisse et Liechtenstein, Europe centrale et la 11e qui compte plusieurs pays de l'Est, l'Océanie et une majeure partie de l'Asie. Configuration différente pour la 8e circonscription qui compte plusieurs pays d'Europe du Sud, la Turquie et Israël. Aucun candidat RN ne s'était présenté face au républicain Meir Habib. Il affrontera la candidate de la majorité présidentielle, Caroline Yadan. Pour ce second tour, les Français de l'étranger pourront voter en ligne dès mercredi midi et jusqu'à jeudi 18h. Dans les bureaux de vote, ce sera samedi pour le continent américain et dimanche pour le reste du monde.
Marie Cazadebet. A noter une participation massive à ce premier tour hier, près de 67%, et le taux est également en hausse chez les Français de l'étranger.
Oui, on vient d'en parler. On va à présent évoquer la question des marchés financiers. Le 9 juin dernier, après la dissolution de l'Assemblée nationale, ils avaient plongé. Cela peut surprendre. Ce matin, les bourses européennes ont ouvert en hausse. Plus 2% pour la bourse de Paris, 0,37% pour Francfort, 0,35% pour Londres. Alors comment expliquer ce vent d'optimisme des décideurs économiques? Écoutez l'analyse de l'économiste Christopher Dambich.
Le soulagement, c'est de se dire on s'oriente a priori vers un gouvernement qui n'aura pas une majorité absolue, ce qui veut dire que certains éléments un peu anxiogènes des programmes économiques ne seront pas mis en œuvre. On va aller sur une forme de statu quo, bien sûr, il est encore trop tôt pour savoir quel sera le gouvernement. Mais la réalité, c'est que dans tous les cas, le prochain gouvernement devra envoyer aussi des gages aux investisseurs étrangers, devra leur montrer qu'ils sont prêts à faire les efforts nécessaires. On a cette question budgétaire aussi. Quand vous avez beaucoup de dettes, beaucoup de déficits, ben vous pouvez pas être trop dispendieux au niveau de vos dépenses. Donc, il y aura finalement, le prochain gouvernement sera cornaqué. Il aura assez peu de marge de manœuvre dans les faits. Pour les marchés, ils se disent, il faut mieux du statu quo qu'un saut complet dans l'inconnu.
Des propos recueillis par Nicolas Feldman. On termine ce journal par du football. Les huitièmes de finale de l'Euro se poursuivent en Allemagne avec après la qualification de l'Angleterre et de l'Espagne hier. Un duel de voisins aujourd'hui. Le choc France-Belgique. Revanche de la demi-finale de la Coupe du Monde 2018. Les Belges n'ont toujours pas digéré leur défaite 1-0. Six ans plus tard, Antoine Grenier, c'est surtout la confrontation entre deux sélections au profil assez similaire dans cet Euro.
Deux sœurs presque jumelles sous le signe de l'euro. France et Belgique, jusqu'ici, ça n'est pas très convaincant. Les Diables Rouges, battus par la Slovaquie dès la première journée, ont redressé la barre face à la Roumanie, avant un match nul dans tous les sens du terme face à l'Ukraine. Quant aux Bleus, la petite victoire initiale contre l'Autriche a été suivie de deux matchs nuls face aux Pays-Bas et la Pologne. Mais Kylian Mbappé le promet, la phase à élimination directe, c'est autre chose.
Si on gagne pas, on va rentrer à la maison. Donc on n'a plus le choix. Dans le groupe, je sens pas de doute particulier par rapport à ça. Il y a eu une prise de conscience, bien sûr. Je pense que le fait de pas terminer premier, ça a réveillé pas mal de personnes, de se dire oh voilà. Mais je pense pas qu'il y ait un quelconque doute et je pense que tout le monde est prêt à faire le match qu'il faut.
Belges comme Français qui devront s'affirmer offensivement. Avec seulement deux buts marqués chacun en trois matchs, la marge de progression est conséquente. Mais l'enjeu peut transformer le jeu. En tout cas, Aurel Mangala, le milieu des Diables Rouges, est impatient.
L'équipe de France est sûrement favori. Ils ont été souvent dans les meilleures positions dans les compétitions. Ils ont gagné une Coupe du Monde. Ils ont été en finale il n'y a pas longtemps aussi. C'est une équipe qui connaît un peu ce genre d'enjeu. Un match contre l'équipe de France, en général, c'est un match excitant. C'est des matchs dont je rêvais à l'époque et maintenant je suis acteur et voilà, j'ai hâte.
France-Belgique, coup d'envoi 16h, temps universel. Antoine Grenier, Düsseldorf, RFI.
Et puis ce sera au tour du Portugal de jouer sa place en quart de finale face à la Slovénie. Coup d'envoi 19h, temps universel, Anne Kantner.
Merci Victor Missistrano. On vous retrouve dans 2 heures pour faire le point sur l'actualité internationale. Et nous parlons bien sûr de l'actualité en France et de ce premier tour des législatives qui avait lieu hier.
Édition spéciale, élections législatives françaises. Anne Kantner.
C'est le début d'une nouvelle semaine de campagne en France, de tractations très intenses qui s'annoncent après la victoire du Rassemblement National hier au premier tour des législatives et un score historique jamais vu en France.
Non, j'arrive même pas à réaliser quoi. Mais c'est génial. C'est une grande famille, c'est le peuple français qui revient au galop dans l'Assemblée nationale. Et ça, c'est quand le peuple vote, le peuple gagne.
Quand le peuple vote, le peuple gagne. Le slogan de Marine Le Pen, réélue dès le premier tour dans le Pas-de-Calais, dans le nord de la France, au grand désarroi d'un certain nombre de militants de gauche, comme à Marseille, hier soir, écoutez.
C'est déjà compliqué d'être une voilée, d'avoir des origines en France, mais avec en plus cette liberté de parole et cette normalisation du RN, ça met hyper mal.
La peur qui s'affiche en une de plusieurs journaux aujourd'hui en France, jamais l'extrême droite n'avait réalisé un tel score. 33% des suffrages, 28% pour le nouveau Front Populaire et un peu plus de 20% pour la majorité sortante. La situation politique est donc totalement inédite et nous recevons pour en parler Stéphane Fournier, directeur d'études pour l'Institut de sondage Cluster 17 et doctorant en sciences politiques. Bonjour. Stéphane Fournier de l'Institut de sondage Cluster 17, est-ce que vous êtes en ligne avec nous? Bonjour.
Oui, tout à fait, je vous entends.
Très bien, moi je ne vous entendais pas, mais c'est une bonne nouvelle que vous soyez là. On va accueillir aussi Étienne Aulion, chercheur au CNRS et professeur associé à l'École Polytechnique. Bonjour.
Bonjour.
Stéphane Fournier, il y avait eu le choc de 2002, Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Ça avait vraiment énormément marqué en France. Aujourd'hui, le Rassemblement national est aux portes du pouvoir. Est-ce qu'on se trouve dans le même registre émotionnel qu'à l'époque ?
C'est pas tellement à moi de le définir, mais en tout cas, j'ai pas l'impression, non, qu'on se trouve dans le même niveau de tremblement de terre qui s'était produit le 21 avril 2002, pour la simple et bonne raison que cette fois-ci, toute une partie de la droite, et même, je dirais, une majorité des électeurs de droite, ont voté pour le Rassemblement national, et s'ils n'ont pas voté pour le Rassemblement national, ne le considère pas comme un parti dangereux, ne le considère plus en tout cas comme un parti dangereux pour la démocratie. Et donc effectivement, il y a toujours cette émotion dans le peuple de gauche et dans une partie du camp modéré, mais c'est quand même sensiblement différent à mon avis de l'onde de choc du 21 avril 2002.
D'ailleurs, les réactions sont aussi différentes au sein des partis politiques. On va en parler dans quelques instants. Avant cela, Étienne Auillon, je voulais vous entendre sur cette montée discontinue du Rassemblement national depuis des décennies maintenant, avec une très nette accélération ces dernières années. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Ça, c'est quelque chose qui a plusieurs facteurs, évidemment. Et donc, on a eu à la fois l'installation dans le paysage politique de ce parti, on a eu sa normalisation. On parle souvent en France de dédiabolisation, qui a été un mouvement discontinu, comme vous le disiez, du Rassemblement national, et qui, à l'heure actuelle, est en train de s'achever, puisque au moment où Marine Le Pen avait fini de lisser l'image de son parti, de lisser son programme aussi pour enlever les aspérités, elle parvient à l'issue de cette élection un peu inattendue, puisqu'il y a trois semaines, personne n'imaginait ça, à se hisser en tête des scrutins.
Et cette dédiabolisation, c'est le fait de qui ? Il y a bien sûr une volonté du Rassemblement national lui-même et de Marine Le Pen en premier lieu, mais il faut bien qu'elle trouve un écho.
Oui, alors écoutez, les stratégies de dédiabolisation, elles sont assez classiques dans l'extrême droite européenne, et donc la France n'est jamais que un des pays qui l'a mise en place. Donc c'est quelque chose qui s'est fait progressivement, qui s'est fait avec le concours, je pense que c'est important de le rappeler, de certains médias. En France, on a eu Vincent Bolloré, ce milliardaire, qui a racheté en fait plusieurs titres et chaînes de télévision au cours desquelles les éléments du programme et les personnalités du Rassemblement national ont été très invités. Et donc ça, évidemment, ça participe à rentrer dans l'opinion. Et puis, dans les dernières semaines et dans les derniers mois, on a aussi vu une forme d'équivalence qui a été mise entre ce que les personnes du centre et de la droite appelaient l'extrême droite et l'extrême gauche. Et on a vu, ce faisant, la disparition d'un terme qui, jusqu'à présent, était assez fort, le terme de front républicain, où on disait que l'extrême droite ne peut pas passer et tous les partis qui se veulent républicains doivent s'y opposer. Ce front républicain a connu en fait des moments très difficiles dans les dernières semaines et à l'heure actuelle, il n'est pas en très bonne posture.
Alors on va en parler justement, on va vous retrouver tous les deux dans un instant, mais on va faire le point sur la situation à la mi-journée, notamment sur cette question du front républicain et ce qui sera le grand enjeu des prochains jours. Les triangulaires, c'est le fait que trois candidats accèdent au second tour de ces législatives. Ce type de situation, il est favorisé par la participation qui est en nette hausse là pour le premier tour. Elle s'élève à 66%. Alors, on discute beaucoup depuis hier soir, Valérie Gasse, de consignes de vote et de stratégies de désistement.
Oui, Anne, ça a été sans transition dès l'annonce des premiers résultats hier soir. La question des désistements pour le second tour a fait irruption dans la campagne. On dit souvent qu'au premier tour, on choisit, au second, on élimine. Et là, très vite, les ténors de la gauche, Jean-Luc Mélenchon en tête, qui s'est exprimé le premier hier soir, eh bien, ils ont fait savoir que la consigne, c'était de faire barrage au parti de Marine Le Pen, qui d'ailleurs, Marine Le Pen a été réélue au premier tour dans sa circonscription à Hénin-Beaumont. Le leader des Insoumis, qui à la présidentielle de 2022 avait dit « pas une voix pour Marine Le Pen » sans appeler à voter pour Emmanuel Macron, a cette fois-ci ajouté que les candidats du nouveau Front populaire, qualifiés pour le second tour en troisième position derrière un candidat de la coalition présidentielle, eh bien, ils devraient se désister en sa faveur pour empêcher l'élection d'un candidat RN. Il a rejoint ainsi la ligne de ses partenaires écologistes et socialistes.
Mais dans le camp d'Emmanuel Macron, c'est moins clair.
Oui, des figures importantes de l'ex-majorité, comme l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, le président du Modem François Bayrou ou ce matin le ministre de l'économie Bruno Le Maire, ont adopté la position du ni-ni, ni RN, ni LFI, faisant une différence entre le parti de Jean-Luc Mélenchon, qualifié d'extrême gauche, et le PS ou les écologistes, les seuls pour lesquels ils acceptent l'hypothèse d'un désistement. Une ligne un peu différente de celle de Gabriel Attal, le Premier ministre, dans son allocution hier soir. Il a évoqué des désistements en faveur des candidats des forces républicaines sans mention d'une exception pour LFI. En fait, selon un participant à la réunion qui s'est déroulée hier autour d'Emmanuel Macron à l'Élysée, c'est bien de cas par cas qu'il va être question. Les circonscriptions ont été regardées une par une et il n'y en a qu'une quinzaine où la question de se retirer face à un candidat LFI se posera, sur les quelques 60 circonscriptions dans lesquelles ont lieu des triangulaires où le candidat du Nouveau Front Populaire est arrivé deuxième.
Donc le barrage républicain n'est plus vraiment d'actualité.
Oui, on en parlait tout à l'heure. Hein. La perspective de l'arrivée au pouvoir du RN fait toujours peur à gauche et dans le camp d'Emmanuel Macron. Elle est perçue et présentée comme un péril pour la France. Mais il n'y a plus la même mobilisation qu'à l'époque, par exemple, où Jean-Marie Le Pen avait été qualifié pour le second tour de la présidentielle. La dédiabolisation est passée par là et les enjeux politiques sont différents avec désormais trois blocs qui s'affrontent. Depuis hier soir, il y a eu des désistements significatifs quand même, hein, comme celui du candidat de gauche en faveur de l'ancienne première ministre d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, dans le Calvados, ou dans le sens inverse, celui des ministres actuels, Sabrina Agresti-Roubache à Marseille ou Marie Guévenoux dans l'Essonne, pour le candidat du Nouveau Front Populaire. Mais déjà aussi, il y a eu des coups de canif dans les consignes. La réalité sur le terrain donne lieu à des exceptions dans tous les camps. Le candidat LFI ne va pas se désister en faveur de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est arrivé en tête devant un candidat RN dans le Nord et devra donc affronter une triangulaire. Et en Haute-Garonne, la ministre Dominique Faure a aussi décidé de se maintenir au second tour face au RN et à LFI. Les candidats ont jusqu'à mardi 18h, demain donc, pour décider de se maintenir ou pas.
Valérie Gasse, chef du service politique de RFI. Donc, vous nous le disiez, plusieurs candidats ont choisi de se désister, mais on a eu une nouvelle illustration de la confusion qui règne dans le camp présidentiel ce matin chez nos confrères de France Inter. Écoutez le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Je mets jamais de signe égal entre la France insoumise et le Rassemblement national. Je pense que c'est un raccourci qui ne tient pas compte ni de l'histoire, ni de la mémoire, ni des individus. Mais je redis que pour moi, la France insoumise est un danger pour la nation, comme le Rassemblement national est un danger pour la République.
Voilà les propos du ministre de l'économie qui ont considérablement énervé la secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, qui fait partie du Nouveau Front Populaire à gauche.
Moi, je vais réagir à ce que vient de dire Bruno Le Maire parce que je suis, un, atterrée et deux, extrêmement en colère.
On vous sent très ému.
Très ému, parce que ça fait 10 ans que je vis dans une ville tenue par le Rassemblement national. Et ce que vient de faire Bruno Le Maire, c'est un comportement de lâche et de privilégié. De privilégié. C'est hors sol, c'est lunaire et c'est pas à la hauteur de l'histoire. Est-ce que le Rassemblement national a la possibilité d'être en majorité absolue à l'Assemblée nationale? La réponse est oui. Oui. Est-ce que la France insoumise a la capacité d'être à la majorité absolue à l'Assemblée nationale? La réponse est non. Est-ce qu'ils ont la capacité d'avoir un Premier ministre? La réponse est non. Donc ils se trompent de problème. Ils se trompent de problème. Et je vais vous dire, heureusement que les électeurs de gauche et écologistes sont moins sectaires et moins lâches que ça. Parce que c'est grâce à ça qu'ils ont gagné en 2017, c'est grâce à ça qu'ils ont gagné en 2022. Et ils n'en seraient pas là sinon. Et vous pensez que les 9 millions de pauvres dans ce pays, que les gens qui ont vécu et pris de plein fouet leur politique, ça leur a pas demandé du courage d'aller revoter pour en 2022? Mais ils savent pourquoi ils l'ont fait. Et donc, franchement, je suis atterrée, vraiment. Ils ont choisi le déshonneur aujourd'hui. Ils seront le déshonneur et la défaite.
Marine Tondelier, ce matin sur France Inter, secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts. Cette question des désistements, on voit bien qu'elle pose problème à un certain nombre de partis. Certains candidats ont donc déjà pris des décisions sans forcément attendre ou suivre la ligne officielle de leur mouvement. Stéphane Fournier, pourquoi est-ce que la majorité sortante n'arrive pas à s'accorder sur cette question ?
Pour un point, à mon avis, qui est essentiel, c'est que l'électorat de la majorité présidentielle, il est composite. Vous avez une partie, évidemment, qui est un noyau dur centriste, central, assez proche de l'électorat, si vous voulez, issu du Modem et de François Bayrou. Mais ce qu'a réussi Emmanuel Macron en 2007 et 2022, c'est d'agréger des gens de gauche et de droite. Or, vous avez toute une partie de cet électorat-là, notamment la partie, l'aile droite de cet électorat, qui refuse de voter avec le front, nouveau Front populaire et notamment avec la France insoumise. Donc, il n'y a que des mauvaises décisions, finalement, pour la majorité présidentielle. Si désistement au profit d'un Front populaire, et notamment si les LFI, vous vous coupez d'une partie de votre électorat de droite, et à l'inverse, si vous faites le nini, ce qui est en train de se produire pour toute une partie de la majorité, effectivement, toute une partie de l'aile gauche de l'électorat macroniste, le centre-gauche macroniste, qui a voté en partie pour Raphaël Glucksmann aux européennes, est également contre ce positionnement. Donc, finalement, il n'y a que des mauvaises décisions, et on voit bien la cacophonie, effectivement, qui règne depuis hier soir. Elle est aussi due à des identités différentes. Bruno Le Maire n'a pas le même parcours politique que Gabriel Attal, qui n'a pas lui-même le même parcours politique que Gérald Darmanin, etc., etc. Et donc, finalement, je serais tenté de dire que le piège se referme sur la majorité présidentielle, c'est-à-dire que quand vous êtes en troisième position, et c'est leur cas dans la majeure partie des cas, finalement, vous êtes dans la mauvaise position. Et donc, vous n'avez que des mauvaises décisions à prendre, d'où la confusion qui règne finalement depuis hier soir.
Mais ce à quoi on assiste, selon vous, ce sont uniquement des calculs politiques ?
Et des logiques d'identité politique, comme je vous le disais, Bruno Le Maire est quelqu'un qui par exemple, est issu des Républicains, qui se réclame encore aujourd'hui de la droite, comme Édouard Philippe, qui hier a également dit qu'il ne voterait pas, qu'il n'appellerait pas à voter pour un candidat de la France insoumise. Vous voyez que cette aile droite de la Macronie, ce n'est pas forcément que par calcul, mais en tout cas, met un signe égal entre la France insoumise et le Rassemblement national. Ce qui a été moins le cas de Gabriel Attal, qui lui a une autre identité politique, qui est issue du Parti socialiste, qui a été membre d'un cabinet sous le gouvernement de François Hollande. Et on voit bien qu'il y a aussi ces logiques à l'œuvre d'identité politique entre une aile gauche macroniste et une aile droite macroniste, et que effectivement on voit bien qu'il y a un désaccord. Et même Emmanuel Macron hier, dans ce qui a fuité, n'a pas été tout à fait clair. Il a plutôt parlé de cas par cas, de circonscription par circonscription, parce que on voit bien que le problème pour la Macronie, c'est que dans le Front populaire, il y a la France insoumise. S'il n'y avait pas la France insoumise dans le nouveau Front populaire, je pense que ce serait beaucoup plus facile pour la Macronie d'appeler à un vaste front républicain.
Étienne Ollion, on voit bien que le front républicain, comme on l'appelle habituellement, ne va pas nécessairement de soi cette fois-ci. Est-ce que, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais est-ce que ça a encore du sens même d'utiliser cette expression aujourd'hui ?
Ça a du sens en tout cas de la chroniquer, puisqu'il y a des gens qui appellent à la mobilisation. Et ça a du sens pour les personnes qui tentent de la mettre en place. Pour rebondir sur ce que disait mon collègue, en fait, c'est toujours à droite hein, que le Front républicain a posé des problèmes.
Étienne Ollion, on ne vous entend plus. On va revenir avec vous sur cette question du Front républicain. Toujours à propos des désistements, Stéphane Fournier, on a parlé là du positionnement du centre, des partis qui font partie de l'ancienne majorité. Cette fois, à gauche, en revanche, et notamment au sein de la France insoumise, puisque c'était un des points qui posait problème. Contrairement à la dernière présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, lui, a clairement appelé ses candidats à se désister en cas de triangulaire pour laisser la place à l'autre candidat républicain mieux placé, et ce, quel que soit le parti. Comment est-ce qu'il faut lire ce changement d'attitude, selon vous ?
Plus ou moins, quand même, ce positionnement-là, en 2022, il ne l'avait pas adopté en 2017, ça lui avait été fortement reproché. Mais en 2022, au soir du premier tour, il avait beaucoup plus clairement appelé à ce qu'il n'y ait aucune voix pour le Rassemblement national. Et hier, effectivement, il a encore été plus clair en disant en appelant carrément au désistement du candidat arrivé troisième. Je pense que la stratégie est double pour Jean-Luc Mélenchon. Il a été diabolisé et marginalisé dans cette campagne de premier tour d'élection législative. Donc il y a un premier enjeu pour lui qui est finalement quelque part de se recentrer, de se dédiaboliser à son tour, pour espérer avoir le plus de députés possible, et puis lui-même à titre personnel pour jouer un rôle éventuellement dans la future Assemblée nationale. Et puis, il y a un autre enjeu qui est tout simplement l'attente de son électorat. C'est un enjeu toujours important pour les politiques d'être en phase avec son électorat. Nous, dans un sondage qu'on a sorti ce vendredi, vous avez 63% des électeurs insoumis qui sont en faveur du désistement républicain. Tout l'électorat du Nouveau Front Populaire, quasiment les trois quarts de l'électorat du Nouveau Front Populaire, est favorable au désistement du candidat arrivé troisième. Donc il y a aussi cet enjeu-là pour Jean-Luc Mélenchon.
On va reparler du Front Républicain avec vous, Étienne Auillon, puisque la ligne a coupé tout à l'heure. Vous étiez en train de nous parler de cette expression. Je vous demandais si elle avait encore un sens. En tout cas, vous nous disiez que la gauche, aujourd'hui, veut l'utiliser comme levier et la réactiver.
Oui, la gauche veut l'utiliser comme levier. Alors, je ne sais pas si c'est un levier pour gagner. Je pense que derrière la gauche, il y a vraiment l'idée que l'extrême droite est quelque chose de particulièrement dangereux. Et c'est historiquement eux qui ont mobilisé cette logique du Front Républicain. Pourquoi est-ce que je dis que c'est pas forcément uniquement un levier stratégique de leur part? C'est qu'en fait, les plus grands bénéficiaires du Front Républicain, en général, c'est plutôt la droite. C'est-à-dire ceux qui sont un peu opposés à ça et qui, lors de différentes élections, voient des voix de gauche venir s'accumuler avec eux. Il y a des contre-exemples, évidemment, mais c'est plutôt du côté de la droite que c'est la droite qui bénéficie de ce désistement. Voilà, donc je pense qu'il y aura en effet des hésitations qui vont continuer, qui vont faire écho en miroir à la clarté qui a été celle de la gauche. Et ça, c'est quelque chose qui est assez classique. La droite est toujours le parti qui a le plus de mal à accepter le Front Républicain. Comme l'indiquait mon collègue tout à l'heure, à la fois pour des raisons de croyance, d'idéologie, d'identité, et puis pour des raisons stratégiques.
Étienne Auillon, est-ce que ce discours, cette expression même de Front Républicain peut encore être utilisé aujourd'hui dans un pays où en fait le Rassemblement National obtient un tiers des voix, des suffrages exprimés?
Ça c'est évidemment toute la gageure en fait de l'usage de cette expression-là, parce que ça c'est une logique d'exclusion. Le Front National, on place des gens à l'extérieur du champ républicain, et donc placer non seulement des cadres, un parti, ses cadres, et puis quelques centaines de milliers de ses électeurs à distance, c'est possible. Placer 10 millions, puisque c'est le chiffre d'hier soir, d'électeurs du Rassemblement National à distance, va évidemment être beaucoup compliqué. Pour l'heure, j'ai l'impression que la question ne s'est pas posée et que la gauche mobilise cette logique du Front Républicain. Mais évidemment, c'est des choses qui vont se poser bientôt.
Et est-ce que selon vous, il y a un risque d'entretenir un certain discours anti-élite que l'on entend du côté du Rassemblement National? Parce que ce qu'on voit aussi quand on observe les résultats du premier tour hier, et c'était déjà le cas au moment des européennes au début du mois de juin, c'est vraiment une fracture très nette entre les grandes villes françaises et puis le reste du pays.
Alors ça, c'est ce qu'on voit sur les cartes quand on regarde en fait la géographie du vote. Si ensuite on fait des études un tout petit peu plus poussées, on se rend compte que la question de la localisation est beaucoup moins importante que d'autres variables qui sont des variables sociales, la question de la profession et encore plus la question du diplôme. Et donc, s'il y a un clivage qu'il faut mettre en avant, c'est bien plus un clivage, social, et ce clivage-là, il existe. Et pour répondre à votre question, en effet, quand on passe par une logique de Front Républicain où on met à distance une partie de l'électorat par ce qui peut passer pour être une manœuvre d'appareil, en tout cas le Front National, le Rassemblement National ne se priverait pas de le dénoncer comme tel, on risque de s'aliéner une partie de l'électorat.
Vous nous parliez de fracture sociale, ça m'amène à une question que je voulais vous poser, Stéphane Fournier, puisque la dédiabolisation de l'extrême droite dont on parlait tout à l'heure, ça signifie aussi la banalisation de plusieurs discours qui sont véhiculés par le parti et un certain nombre de militants, un discours raciste, xénophobe. Est-ce que ça c'est largement partagé aujourd'hui par les électeurs du RN ou bien est-ce qu'il y a d'autres motivations qui prennent le pas, comme on pourrait le penser au regard de ce que nous disait Étienne Auillon à l'instant?
La motivation du vote des électeurs RN, et en tout cas ce qui fait le commun et le lien entre ces différents électeurs que le RN aujourd'hui agrège, reste la question de l'immigration et de la question sécuritaire, et au sens large la question de l'identité culturelle de la France. Ensuite, vous avez des électorats très composites, très différents au sein de l'électorat Rassemblement National. Quand vous faites 10 millions de voix, de fait, c'est que vous arrivez à capter des gens très divergents, très différents, y compris socialement. C'est beaucoup plus hétérogène que ça ne l'était auparavant, par exemple, au moment où c'était encore le Front National. Même si le Rassemblement National aujourd'hui, effectivement, reste entre guillemets aux portes des grandes villes, il fait des scores quand même significatifs dans un certain nombre de métropoles.